Non, non.
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 Je respecte ton truc, là, poète-poète, elle était... Ouais, mais je déconne, poète-cul, je trouve que tu... C'est très bien, c'est marrant. Je suis le premier à rire à ça. Mais le cinéma, c'est autre chose. C'est Carnet, c'est Renoir, c'est les Frères Lumière, tu vois, c'est la Ciotat, tu vois. C'est l'arrivée du travail à la Ciotat, c'est la sortie des ouvriers, des Renault. Là, c'est du travail, tu vois, c'est une histoire de l'humanité. Et c'est pas un petit con que je respecte, qui est formidable, et qui va, moi aussi, la télé, non, non, je vais faire du cinéma. Là, va te faire enculer d'une certaine façon, métaphoriquement, parce que bon.
C'est ma bière.
Comment ?
C'est ma bière.
Ouais, mais je crois que c'est une grande famille aussi.
Ouais.
T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film.
Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film.
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important.
C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'horaire d'aller dormir.
Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers 10:30.
J'étais
fatigué.
J'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Bon, de Dieu, de bordel de merde. Oh, tu me retailles. Tu m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, proche de bien. Oh, ton cul, ton cul. C'est mon génie.
But now we come to a period that I call the battle for identity.
Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah.
Bonjour, vous écoutez Le Cinéma est mort en attendant Godard, l'émission un peu mutante de Canal B et de Silab, et je suis en compagnie de moi-même Antonin et de Thomas dans Attendant Godard, et on va faire une émission un peu spéciale. Nous sommes à la convention cinéphile organisée au Cinéma Arvor par 97mm, et on va faire réitérer ce petit truc qu'on avait fait au Déboté avec Thomas lors de la braderie Alphonse Guérin, c'est-à-dire d'aller faire du picking de DVD et demander à différents éditeurs, auteurs, de choisir chez leurs voisins de tablé un film ou un bouquin qu'ils auraient envie de défendre. Voilà, t'as quelque chose à rajouter, Thomas, ou...
C'est super ce que t'as dit. De toute façon, je pourrais pas faire mieux.
Thomas, il va pas du tout être d'une grande aide. Je suis pas sûr qu'en fait, on va la diffuser sur ta radio d'amateur, mon cher. Voilà.
Je n'aimerais pas voir un film pour la première fois en vidéo ou à la télévision. On voit d'abord un film en salle. Cinéma et vidéo, c'est effectivement la différence entre un livre qu'on lit et un livre qu'on consulte. Pour moi, comme cinéphile, la vidéo bouleverse ma vie. Prenez Serenada 3 de Lubitsch, par exemple. Avant, s'il passait quelque part, j'y allais, sachant que je devrais attendre peut-être 2 ans avant de pouvoir le revoir. Depuis, il m'arrive de le visionner 3 fois dans la même semaine. Avoir un film en vidéo m'en donne une connaissance beaucoup plus intime. En tant que cinéphile, je suis un fanatique de la vidéo.
Claude Berry, citant les propos de François Truffaut.
On va commencer directement avec honneur aux organisateurs, avec Alexandre. Alexandre, comment il s'appelle? C'est quoi son nom de famille, Alexandre? Bon, Alexandre, ça suffit, voilà. Et Alexandre, tu vas nous parler d'un film. On va aller directement. Je vais te filer le micro directement parce que moi, j'ai rien à faire. Et tu vas aller sur le stand de Je te laisse maintenant le micro.
D'accord. Oui, donc je voulais présenter ce film Deadstream, meilleure surprise du cinéma d'horreur de ces dernières années, édité chez Extra Lucide. Donc très belle édition avec beaucoup de bonus, interviews, making-of, etc. Et c'est un film qui, dès le début, affiche ses velléités de mise en scène, c'est-à-dire que c'est un found footage dans lequel l'acteur principal est à la fois le metteur en scène dans une maison hantée, et pour gagner des followers ou pour ne pas les perdre, puisqu'il a un stream justement, pour ne pas perdre ses followers, il doit rester dans cette maison soi-disant hantée. Et quand on commence le film, quand on commence le film, on se dit le type est plutôt antipathique, il est bête, mais justement il peut lui arriver absolument n'importe quoi, puisque il doit rester dans cette maison hantée pour garder le stream et pour ne pas perdre ses followers. Et ça marche très très bien. Et le concept est tenu jusqu'au bout. Donc vraiment, Deadstream de chez Extra Lucide, excellente surprise et je vous souhaite vraiment de le découvrir. Voilà.
J'allais pisser un coup sur ce cinéma pourri qui m'ennuie. Ah, j'en pouvais plus. Oh là là. Oh, quel film, mon Dieu. Ah, oh, je suis coincé, j'arrive même plus. Quel navet, mon Dieu.
Excusez-moi, je peux pisser devant à côté de vous.
Vous êtes le bienvenu.
Vous vous rendez compte, en 88, pisser sur un cinéma?
Pisser sur un... Ah, oh, ben, il le mérite.
Pourquoi, vous avez vu un bon film?
Une horreur. Non, une pure horreur qui m'a donné qu'une seule envie, c'est de sortir immédiatement.
Je suis pas d'accord avec vous, parce que on va tellement rarement au cinéma. Chez vous, quand il y a un mauvais film à la télé, vous pissez sur votre télé?
Non, mais je vais pisser pendant ce temps-là.
Oui, mais il faut pisser sur la télé. Là, vous pissez sur un cinéma. Vous vous rendez compte?
Oh, mais j'arriverai bien au stade où je pisserai dans le cinéma, de toute façon, au point où vont les choses.
Je suis en compagnie là, à la table de Frénésie avec Stéphane. Et Stéphane, il a décidé de nous parler d'un éditeur qu'on connaît bien évidemment à Rennes, qui est Rimini, avec Jean-Pierre Vasseur, son boss, qui vient de sortir Main basse sur la ville de Rossi. Je te laisse la parole, Stéphane.
Oui, grâce au travail éditorial de Rimini, c'est vrai qu'on a la possibilité de découvrir ou de redécouvrir ce chef-d'œuvre du cinéma italien des années 60, Main basse sur la ville. Qui part de faits réels, hein, donc qui parle vraiment d'un aspect de la société italienne de l'époque, notamment la corruption et des drames qui peuvent s'en suivre. C'est un film, je dirais, à l'époque, qui était quand même d'une actualité assez brûlante et puis assez risquée aussi, donc de Francesco Rosi. Et là, c'est vrai que quand on a dans les mains cette édition, un magnifique digibook, le film totalement restauré, remasterisé en 4K, des suppléments évidemment aussi pertinents que passionnants, j'ai envie de dire oui, on ne peut que succomber à Main basse sur la ville et au fait de pouvoir acheter ce genre d'édition dans la convention. Donc je vous y encourage.
Merci Stéphane.
Je vais vendre.
Ah ouais?
Ouais, recommencer ailleurs, prendre un nouveau départ, laisser tomber le travail d'architecte, ralentir un peu, lire plus de bouquins, aller voir plus de films.
Vous êtes cinéphile?
J'aimerais bien, mais c'est pas facile avec toutes ces merdes qu'il faut aujourd'hui. Si seulement ils pouvaient faire des films comme on en faisait avant. Vous voyez, des classiques genre Karate Kid ou Harold et Maude.
Harold et Maude, justement, c'est le film que je préfère.
Vous foutez pas de moi, bon, je sais, c'est cucu, mais
bah, c'est
comme
c'est
ça,
vrai ce que je dis. Je trouve que Harold et Maude est une des plus belles histoires d'amour
de notre époque.
Ouais, vas-y, à toi de jouer Thomas. Vas-y,
ouais.
Vas-y. Toi, t'es Michael Kirk.
Et oui, alors maintenant, nous sommes donc avec Alain Mercier de Capture Mag. Tu voulais nous parler de New York 2h du matin de Abel Ferrara.
Ouais, on va faire vite. Bon, c'est un film qui a une petite curiosité pour les cinéphiles, parce que déjà tu vois le nom d'Abel Ferrara, tu te dis tiens, je connais pas ce titre, c'est marrant, c'est intéressant, il y a quand même un beau casting, Billy Dee Williams, donc qu'on connaît pour être Lando Calrissian dans les premiers Star Wars, Tom Berenger et tout, et en fait on se retrouve devant un beau petit alors moi j'appellerais ça un Hollywood Night, hein, pour les vieux de la veille qui regardaient les polars foireux sur TF1 le samedi à 23h. Voilà. Et ouais, c'est en gros c'est des mecs qui gèrent une agence de mannequins de nuit, enfin je sais plus vraiment qui est un peu déjà un business un peu douteux, commerce de femmes, etc. Qui commence et donc ces nanas, ces jolies femmes, se font massacrer par un dangereux extrémiste adepte du nunchaku et du katana. Enfin, tu vois le cliché du mec d'extrême droite qui s'est entraîné au Japon. Enfin, tu vois, qui a une salle vide et qui fait des répétitions, tout ça.
Steven Seagal.
Voilà, c'est du néon porn. En veux-tu, en voilà. Voilà, de façon années 80. Et voilà, comme je le disais tout à l'heure. À notre ami Antonin, c'est le film à proposer à tes amis qui te parlent un peu trop de Winding Refn et qui fantasment les années 80. Tu leur dis, bah, tiens, voilà, c'est le vrai drive, quoi. Tu vois, t'as vraiment le côté, ouais, tout le côté sexe, violence, la nuit, la poisse et tout, le danger, les femmes à gros lolo dont on s'intéresse pas du tout. Et voilà, donc moi je regarde, c'est pas un film dingue, hein, c'est pas le Ferrara de Bad Lieutenant ou de L'Ange de la Vengeance. Mais voilà, si on regarde ça avec une bonne petite bière, un esprit un peu tordu et décalé, ça peut faire l'affaire, quoi. Voilà.
Merci Alain.
Il m'avait montré un court-métrage avant La Servante, je crois.
Salut.
J'aurais bien aimé le voir.
Salut. Je vous préviens, j'ai un peu bu, hein.
Tiens, d'ailleurs, tu l'as vu, le dernier Aung San Suu ?
Night and Day, ouais.
J'étais un peu déçu, c'est dommage.
T'étais déçu ?
De quoi ?
Le dernier film de Aung San Suu.
T'étais déçu, pourquoi ?
Ah, je trouve ça un peu paresseux par rapport au dernier.
C'est quel film ?
Night and Day.
C'est un réal coréen.
Ouais, il doit avoir pas plus de, je sais pas, 1000 fans en France et encore.
Ouais, quelques centaines de en Corée, mais bon.
J'ai pas vu.
C'est vachement bien.
Ouais, c'est vraiment.
Le dernier.
Mais tu es belge.
C'est à cause de l'accent.
Pourquoi ?
C'est à cause de l'accent que tu dis ça.
Ouais.
T'as un accent ?
Non, oui. C'est pas la première à me le dire.
S'il vous plaît.
Bon, et sinon, Center Stage, t'as avancé quoi ?
Ah, j'ai adoré. Hein. Merci encore pour le DVD. Ça faisait longtemps que je voulais le voir.
À la CF ?
Mais
Non, dans un festival. Excuse-moi.
Non, pardon.
Bon, vas-y, je t'en prie.
Il y a une nuit au Karwai, au shampoo.
Au shampoo, ouais. Ouais. Ils en font tous les 6 mois en même temps. Non, moi, je l'avais faite il y a 2 ans.
Oui, j'ai dû en faire une il y a 3 ou 4 ans. Moi, je m'en rappelle plus.
Ok. Bah, on n'ira pas.
Nous sommes toujours à la convention cinéphile au cinéma Arvor, convention organisée par l'association 97 mm, et nous sommes maintenant avec Bastian Meresson. Et Bastian, tu voulais nous parler de l'éditeur Badlands, avec notamment deux films qu'ils éditent, La Bête élégante et Les femmes naissent deux fois, de Yuzo Kawashima.
Exactement. Alors, je suis extrêmement content de pouvoir parler de Badlands, parce que c'est l'un des petits éditeurs totalement indépendants, comme il y en a plusieurs lors de ces conventions, de cette quatrième convention, en fait. C'est des gens qui ne veulent pas se faire du fric sur le dos de leurs clients. En fait, c'est des gens qui sont déjà passionnés à la base, qui vont traquer des films totalement obscurs, que eux-mêmes ont adoré, et qui le vendent, bon, ok, à un prix de 25 euros ici à la convention, mais il faut bien rembourser les frais. Mais c'est dans ce cas précis un réalisateur japonais totalement obscur, Yuzo Kawashima, qui est en fait le mentor d'Imamura Shoei, qu'on connaît beaucoup plus parce qu'il a gagné 2 palmes d'or avec La Ballade de Narayama et L'Anguille. Et c'est un peu le papa spirituel d'Imamura. Et c'est quelqu'un dont on n'a jamais entendu parler pendant 70 ans, et qu'un petit éditeur comme Badlands remet en avant en disant « Putain, ce film a peut-être 70 ans ou 80 ans, mais il n'a pas pris une seule ride. C'est totalement dingue que les gens soient passés à côté. Et nous, on prend le risque de faire des jaquettes fluo et alléchantes, mais parce qu'il n'y a pas que la forme, il y a aussi du fond. Et c'est pour ça que j'adore des événements comme cette convention, en fait, parce que ça permet de mettre des petits éditeurs en avant et leur travail de passion et d'exception.
Merci beaucoup, Bastian.
Juste rappeler que Bastian, toi, tu es là en tant qu'auteur parce que tu viens de sortir un livre. Bon, évidemment, toute la France entière et le monde entier bientôt est au courant parce qu'il est en passe d'être traduit en anglais. Mais à Hollywood, cinéma coréen. Donc, tu es le spécialiste mondial du cinéma coréen. Voilà.
Universel, j'ai
envie de dire. Universel.
Intergalactique.
Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gommes, des moustachus, des fiers à bras, dès qu'ils s'entretraient chaque fois qu'ils trouvent un cheveu sur plat. Un piano jouait des choses d'atmosphère, des Guillaume Tell au grand air du trouvère. Et tout le public en frémissant se passionnait pour ces braves gens. Ça coûtait pas cher, on en avait pour ces 3 francs.
Belle, 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 belle comme le jour. Blonde, 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 blonde comme l'amour.
Rêve passé sur l'écran et dans la salle obscurément. Des mains se cherchent, des mains se trouvent timidement.
Gare, 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 la revoilà. Et dans la salle, plus d'un cœur bat.
La voiture où elle se croit tension et vient s'écraser par terre. Avec un essieu cassé, le bandit va pouvoir mettre la main sur le fric, c'est tragique, nom d'un chien. C'est fini, tout s'allume, à mercredi prochain. Maintenant ce n'est plus mon papa qui m'accompagne au cinéma, car il plante ses choux là-bas, pas loin de ce que tu vas. Mais j'ai rencontré une Dalida, une drôle de monde, une fille comme ça. Elle adore aller le mercredi dans les cinémas. Bien sûr c'est devenu le cinémascope, mais ça remue toujours et ça galope. Et ça reste encore comme autrefois, rempli de cow-boys sans foi ni loi, et de justiciers qui viennent fourrer leurs pieds dans le plein.
Gare, 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 gare et couvert. S'approche du ramadan vert.
Fais attention, pauvre crétin, car à l'onde là n'est pas très loin. À 500 mètres, il loge une balle dans un croton pain.
Gare, 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 pendant ce temps-là, je la prends doucement au creux de mon bras.
Le fauteuil où elle se croit en sûreté ne m'empêche pas, bien sûr, d'arriver à l'embrasser. J'ai pas vu s'il y a risque gagnant, mais comme c'est le cinéma permanent, mon chéri, rappelle-toi, on est resté un an et on a eu beaucoup d'enfants.
Ah, comme ça, ok. Oh, attends, c'est compliqué hein, quand même. Hein. Je suis avec Karine, toujours à la mini-convention. Et Karine, c'est l'éditrice chez Extra Lucide. Et elle a décidé de nous parler de La Nuit de la Comète que vient de sortir notre ami Jean-Pierre Vasseur, l'excellent éditeur de Rimini.
Oui, bonjour. La Nuit de la Comète, que dire, c'est génial. Pour les fans de films de science-fiction, horreur des années 80, là, il y a vraiment tous les ingrédients. Un film post-apo avec des médecins fous, des zombies, des jeunes filles qui pensent qu'à faire du shopping. La musique est dingue, la lumière est chouette. Vraiment, c'est une pépite à découvrir.
Venons-en à notre sujet. Dario Argento. Dans les années 70, il est le génie, le Murnau, si vous voulez, d'un genre qu'on appelle le giallo, qui mêle l'horreur, le policier et l'érotisme. Connaissez-vous d'autres cinéastes ayant réalisé des giallo? Allez-y, William.
Pour moi, le problème, c'est que j'ai l'impression que Dario Argento, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. On oublie trop certains cinéastes géniaux comme Umberto Lenzi, que Tarantino adore, Inglourious Basterds en a inspiré, Aldo Lado ou Sergio Martino. Pour moi, il y a des scènes de meurtre extraordinaires dans leurs films. Il y a une énergie électrique, des effets graphiques stupéfiants, une morbidité hypnotisante. Pour moi, ça n'a jamais été égalé. Même par le torture porn ou le rape and vengeance. Bon, si, bien sûr, il y a Massacre à la tronçonneuse ou Schizophrénia. Ça, c'est, pour moi, c'est vraiment fabuleux.
Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est un ami d'enfance, de Clermont. On s'aime bien dans la vie, mais on n'a pas du tout les mêmes goûts. En fait, moi, ça m'amuse d'entendre tout ça. Et puis, ça me renseigne, mais j'y connais rien. C'est tellement pas mon truc.
Excuse-moi, c'est peut-être ton ami, mais il craint ce type. Enfin, c'est vraiment l'incarnation de la médiocrité contemporaine. Ceux qui sont là vanter les trucs les plus régressifs, qui veulent te faire croire que la série Z, c'est aussi génial que le reste, c'est les mêmes qui se vendent au marché après sans problème.
Bah William, il a fait ici des courts-métrages assez trash et qui plaisent pas mal. Pour lui, ça va marcher, c'est sûr.
Tu vois?
En plus, la régression, elle est partout. L'année dernière, dans une autre fac, il y a eu un colloque Goldorak.
Quoi?
Oui, c'était à Gerbé.
toujours en direct toujours à la mini convention au cinéma Arvor à Rennes, et je suis avec mon ami Jean-Pierre Vasseur des éditions Rimini qu'on connaît bien ici, et lui il a décidé de nous parler, rappelle-moi, de
un film qui s'appelle Qui l'a vu mourir, qui est sorti chez Frenesi. Le film appartient au genre italien, le giallo, mais donc un genre policier, mais un peu matiné parfois, de séquences qui peuvent renvoyer au cinéma d'horreur. Il y a toujours une ou deux séquences érotiques très, très chastes, mais quand même pour l'époque, c'était un peu le sentiment que ça donnait, voilà, ces séquences érotiques. Et alors le genre est très connu en France via des gens comme Dario Argento, et ce film-là était bizarrement passé un peu à l'as, enfin avait de mémoire jamais été édité, jusqu'à ce que Frenesi achète les droits et fasse une édition digne de ce nom. Donc le film raconte, met en scène un tueur en série, qui tue des petites filles. Et on est à Venise, un couple voit la petite fille disparaître et le corps est retrouvé dans un des canaux de Venise, et le père va mener son enquête, et on a en parallèle à la fois la traque de ce tueur mystérieux évidemment, et puis en même temps tout un petit discours un peu politique sur les élites corrompues, tout le monde participe à des soirées qu'on devine, interlope, et puis plus que glauque, donc ça c'est pour l'histoire du film. Je vais vous dire deux mots du réalisateur que je ne connaissais pas beaucoup, qui s'appelle Aldo Lado, qui avait été révélé par un film qui s'appelle Je suis vivant, qui était aussi dans ce genre-là. Et le couple de comédiens principaux, c'est George Lazenby, qu'on connaît parce qu'il a été le James Bond qui a le moins marché, on va dire, avec Au service secret de Sa Majesté, un des James Bond qui était assez sombre et qui a été un échec en salle. Bon, de vous à moi, George Lazenby n'est pas un acteur exceptionnel. Et puis, l'actrice qui joue son épouse dans le film, la mère de cette petite fille qui a disparu, s'appelle Anita Strindberg. Alors, elle ne dit rien à personne, mais je vous la cite juste pour le plaisir de vous donner l'un des titres de films de sa filmographie fameuse, qui s'appelle « Ton vice est une chambre close dont moi seul ai la clé ». Moi, rien que ce titre, j'adore. Ça, j'espère que ça va vous donner tous l'envie de voir ce film. Donc, on est dans l'ambiance des films de Giallo, c'est-à-dire un très grand soin apporté à l'image, à la couleur, au décor. Vraiment, tout est vraiment travaillé dans une Venise qui est déserte et qui baigne comme ça dans un brouillard permanent. Vraiment un film à découvrir, un film à voir. Puis l'édition, puisqu'on parle de travail d'éditeur, est très bien de Frenesi. Ils ont repris un certain nombre de bonus qui étaient fabriqués par l'ancien éditeur, je crois que c'était Ecstasy of Film, interview du réalisateur, interview de la gamine, de la jeune femme qui jouait la gamine à l'époque, interview du scénariste, et ils ont rajouté une longue interview de l'excellent Olivier Père, de responsable du département cinéma chez Arte, et qui donne un éclairage très argumenté, très savant sur le film. Donc voilà, à voir. Qui l'a vu mourir, Giallo italien de 1972.
Super, merci Jean-Pierre.
Le cinéma comme le christianisme ne se fonde pas sur une vérité historique. Le cinéma comme le christianisme, le cinéma comme le christianisme. Le cinéma comme le christianisme ne se fonde pas sur une vérité historique. Il nous donne un récit d'une histoire et nous dit maintenant croire. Non pas accorde à ce récit, à cette histoire, la foi qui convient de l'histoire, mais crois, quoi qu'il arrive. Et ce ne peut être que le résultat de toute une vie. Tu as là un récit, ne te comporte pas avec lui comme un récit. Il soit une rendre un historique Nachricht. Donne-lui une place tout autre dans ta vie. Eine ganz andere Stelle in deinem Leben einnehmen.
Nous sommes toujours à la convention cinéphile au cinéma Arvor, organisée par l'association 97 mm, et nous sommes avec Rafik Djoumi de Capture Mag. Rafik, tu voulais parler de deux films sortis en Blu-ray chez Extra Lucide, de Balada Triste des Trompeta et Perdida Durango, oui, de Alex de l'Iglesia.
Oui, donc Balada Triste et Perdida Durango d'Alex de l'Iglesia. Pourquoi ces deux-là?
Déjà parce que je pense humblement que Alex de la Iglesia est le cinéaste européen le plus complet qui soit, dans la mesure où il a débuté dans le cinéma d'horreur dont il maîtrise absolument tous les codes. Donc dès qu'il s'agit de gérer l'ultra-violence, monsieur est parmi les meilleurs. Mais il a aussi prouvé dans de multiples comédies comme Mes chers voisins, etc., qu'il avait mort de rire, qu'il avait un sens du timing absolument impeccable. Je sais qu'à une époque où je l'avais rencontré, je l'avais comparé à Billy Wilder, ce qui avait l'air de l'avoir pas mal gêné. Mais en même temps, je le pense sincèrement, il a vraiment un sens du tempo qui est complètement dingue. Et Perdita Durango, c'est sa première tentative d'expérience américaine, puisqu'il s'agit en gros de ce qu'on appelle une sidequel, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas une suite, mais c'est un aparté. C'est une sidequel de Sailor et Lula, puisque dans le film de David Lynch, vous vous souvenez certainement qu'à un moment donné, il croise un personnage joué par Isabella Rossellini, qui s'appelle donc Perdita Durango, auquel ce film est entièrement consacré. Alors je sais qu'il y a des fans du film de Lynch, je n'en fais pas partie, mais si vous voulez vraiment de la violence, de la sauvagerie et de l'aberration cinégénique, c'est plutôt dans Perdita Durango que vous le trouverez. Je ne sais pas comment le décrire autrement que c'est un film fou. C'est un film fou et c'est un film beau, c'est-à-dire qu'il est vraiment techniquement absolument exceptionnel. Et Balada Triste de Un Trompeta, Alex de la Iglesia, qui est vraiment une sorte de chien fou du cinéma espagnol, est devenu à une époque le président de l'Académie des Arts espagnole. Et là, tu te dis, mais quel est ce peuple qui nomme un taré absolu comme Alex de la Iglesia à la tête de l'Académie? Et je pense que ça lui a donné un sens des responsabilités, on va dire, où il s'est dit que finalement, c'était à lui de raconter l'histoire de l'Espagne. Et c'est sa tentative, Balada Triste de Un Trompeta. Donc l'histoire de l'Espagne, ben, c'est en gros, c'est deux clowns qui se haïssent cordialement et qui s'arrachent les faveurs d'une même femme. Et cette femme, on peut presque la voir dans le film comme étant l'Espagne elle-même, en fait. Hein. J'en dis pas trop parce que les gens peut-être le découvriront. Il y a beaucoup à spoiler dans ce film, mais on passe vraiment du cinéma de Todd Browning à celui de George Romero pour rejoindre du Don Siegel. Enfin, quand je dis que c'est le cinéaste européen le plus complet, c'est vraiment parce qu'il donne l'impression de, quel que soit le genre qu'il touche, quelle que soit la cinématographie qu'il touche, il sait exactement comment le faire et comment le gérer. Donc voilà, ça sera mes deux recommandations. Et puis bon, tant qu'à faire, faites-vous toute la carrière d'Alex de la Iglesia si vous en avez la possibilité.
Merci beaucoup, Rafik.
Le Seigneur des Anneaux, on ne va pas en mal parler, mais on peut dire quand même que c'est un gros pédé, le mec qui a fait ça.
Non.
Si. Et le film en lui-même, l'histoire et tout ça, les capés d'épée, les beaux gosses contre les méchants. Moi, j'ai trouvé ça tellement tiré par les cheveux que j'ai, à un moment donné, je me suis endormi.
T'es endormi?
Oui. Ouais, endormi, ouais.
Endormi.
Ouais. Mais ouais, quand t'as des arbres qui transportent des nains et quand t'as des machins, je sais pas.
Il crée un monde qui n'existe pas, mais.
C'est bon.
Mais il arrive à le rendre intéressant.
Alors que vous, non. Intéressant pour certaines catégories de personnes.
Ouais, est-ce qu'on a le droit? Les personnes avec un cerveau.
On a le droit d'avoir un autre avis.
On a le droit de dire.
Non.
Non.
On a pas le droit d'avoir un autre avis.
Non.
Y a que toi qui as un bon avis. C'est toi qui peux donner ton avis.
Oui.
Les autres ont caster.
Oui.
C'est ça que tu veux dire.
Oui.
Toi, tu fermes ta gueule.
Tout ça.
C'est la question de littérature.
Les autres, tout ça.
Sur toi, sur tes enfants,
Max,
sur ta famille,
Max,
et sur
Max,
tes ancêtres.
Non,
je leur pisse dessus. Je chie sur ton œuvre artistique de méthode.
Attends, je vais t'envoyer une sonnerie à la gueule.
Ce qu'il aime.
Attends,
ce que les autres.
Merde! Quoi?
J'ai jamais dit que c'était tolérant. Prononce pas ce mot devant moi-même.
Ouais, t'es intolérant. T'es intolérant.
Oui.
T'es profondément intolérant.
Profondément intolérant.
Ah voilà,
je t'emmerde. Dis-le!
Alors ça me fait un peu mal au cœur, mais pour cette émission, je suis obligé d'inviter Thomas Gombeau, c'est ça? D'un obscur média rennais, nommé En attendant Godard, et qui a choisi de parler de Eurocrime, qui est un documentaire qui vient de sortir, me semble-t-il, chez Frénésie, avec une belle jaquette signée par quelqu'un qu'on connaît, il me semble. Allez, vas-y Thomas, parle-nous de ça.
Merci Antonin, merci de nous recevoir. Donc effectivement, Eurocrime. Donc, qui est en fait un documentaire qu'il a déjà dit il y a quelques années, qui est un long documentaire qui en fait nous raconte l'histoire du film policier Rital, donc les poliziotesco et sous toutes leurs formes, que ce soit les films les plus violents avec Maurizio Merli ou plutôt les comédies comme Les flics en jean avec Thomas Milan, le meilleur acteur du monde, hein, donc on le rappelle. Et c'est vrai que c'est un documentaire qui est assez impressionnant parce que ça brasse vraiment toute l'histoire du cinéma criminel, on va dire, italien des années 70, et Dieu sait qu'il y a eu beaucoup de choses, entre évidemment donc, que les années de plomb, les agissements des brigades rouges, les manœuvres politiques, les assassinats politiques, et ce cinéma donc policier-là en était clairement le reflet de tout... les différents chambardements qu'il pouvait y avoir dans la société italienne. Et le film est vraiment drôle, avec une palanquée d'interviews de mecs qui ont des ganaches pas possibles et qui racontent des choses intolérables et sur les méthodes de production. Et d'où, à un moment donné, il parle notamment de The Big Racket de Enzo Castellari, où il y a une scène de massacre assez violente où le mec se fait buter d'une balle en pleine tête. Après, on le brûle et après, on lui pisse dessus. Et il y a un des intervenants qui raconte que le pire de l'outrage, c'est pas de tuer quelqu'un ou de brûler sa maison et de violer sa femme, c'est de lui faire pipi dessus. Ce que je trouve qui donne quand même un sens des valeurs assez particulier. Donc c'est un très très chouette documentaire et qui donne surtout envie de voir et revoir encore plus les films policiers italiens. Merci Antonin.
Merci à toi, merci à toi.
Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Un film qui passe cette semaine à la télé, j'aimerais que les élèves le regardent.
Oui, mais tu peux pas mettre ça ici, hein?
Mais pourquoi, il y a de la place?
C'est réservé au ciné-club.
Bah, Altman, quand même.
Oui, comme par hasard, le seul film commercial d'Altman.
Bah, je vois pas ce que tu peux lui reprocher, c'est du très bon cinéma. Il y a de l'action, il y a de l'humour.
Oui, un peu de violence, un peu de sexe. Excuse-moi, mais j'attends autre chose d'un film.
Ah bon? Et qu'est-ce que t'attends?
Qu'il m'interpelle quelque part, qu'il me fasse réfléchir.
À moi, pour réfléchir, j'aime mieux être tranquille, au calme, sans bruit, sans image.
Dans ces conditions, n'importe quelle connerie peut faire l'affaire.
Ah non, pas du tout. N'importe quelle connerie, ça peut faire l'affaire pour vous, les intelligents. Vous, on vous fait un plan de 3 minutes sur un œuf, aussitôt vous imaginez les mouillettes, la poule, Christophe Colomb, Yul Brynner. Avec les cons comme moi, c'est plus difficile, on peut pas leur faire n'importe quoi. Sinon, ils s'emmerdent, ils gueulent et ils s'en vont. Crois-moi, parvenir à intéresser même les cons, c'est ce qui demande le plus d'intelligence.
Je suis complètement d'accord avec toi.
Je vous signale qu'il y a un excellent film jeudi soir au Ciné-Club, Sonate d'automne de Bergman. Ne le ratez pas, les films intelligents sont rares.
On vient de choper au passage Simon Danielou, qui est là en tant qu'auteur pour avoir signé ce très grande somme sur le Chambara, Découpe du Chambara, qui est disponible aux presses universitaires de Strasbourg, me semble-t-il. Et aussi un grand livre, tu vas me redire le titre, mais qui est sur les formats, les différents formats, l'histoire des différents formats d'images au cinéma. Le titre de ce livre, vas-y, dis-moi.
C'est de l'écran géant à l'espace domestique.
Il ne sait même pas le titre de son propre livre. Et il est prof d'université. On confie des postes à n'importe qui dans ce pays. Et alors Simon, tu as fait le choix de nous parler de l'éditeur Intersection.
Oui, tout à fait. Et je précise que ce sont des ouvrages collectifs. Donc je n'ai pas signé la totalité de l'ouvrage. Oui, effectivement, je voulais revenir sur deux des films édités récemment par Intersection, que sont Met One et Maria's Lovers de Konchalovsky. Oui. J'ai déjà découvert les films grâce à ces éditions. Je les ai trouvés fantastiques tous les deux pour différentes raisons. Et notamment pour le travail sur la photo dans les deux cas, Askell Wexler dans un film. Et puis la photo d'un chef-op pas très connu dans le second. Et dont j'ai apprécié le travail grâce à la qualité des copies proposées par l'éditeur. Mais je voulais saluer vraiment le travail de cet éditeur, l'écrin en fait, dans lequel il propose ces films-là. Parce que ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait que cet écrin, il est sobre en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 36 menus, on accède au film assez rapidement, sans menu animé excessivement ou avec un son tonitruant. On peut vraiment se mettre dans un sas pour arriver vers le film et on l'apprécie d'autant mieux. Et puis il y a tout le travail de supplément autour des films. Et voilà toute la parole qui a été donnée à John Sayles, à sa femme productrice ou à des spécialistes des sujets ou des œuvres abordées. Moi, je trouve que c'est un travail exemplaire. C'est exactement ça que j'attends d'un éditeur de films en vidéo aujourd'hui. Criterion aux États-Unis avait cette façon relativement sobre de nous amener vers les films. Et c'est ce que j'attendais un petit peu d'un éditeur français. C'est ce que j'ai retrouvé dans ces deux cas. Donc, au-delà de la découverte des films qui sont splendides, il y a aussi un travail à saluer, je trouve, d'une identité. Il y a une vraie ligne éditoriale, on la sent, mais elle est discrète. Elle est au service des films. Et j'ai beaucoup apprécié ça.
Merci Simon, et on peut signaler que Gwendal, qui est présent là, l'intersection, va continuer en tout cas son travail autour de l'œuvre de John Sayles avec presque peut-être même l'intégralité de la film de John Sayles, et ça je pense que c'est la meilleure nouvelle de l'année. Merci Simon.
Antonioni, Mastroianni, Fellini, Pasolini, Billy Wilder, Lana Turner, Rainer Werner Fassbinder. Jean-Pierre Léo, Belmondo, Brigitte Bardot, la manie du cinéma, Cinémania, la manie du cinéma, Cinémania. Marilyn Monroe, Jeanne Moreau, Robert De Niro, Mia Farrow, Woody Allen, Sophia Loren, Ingrid Bergman, Liv Ullmann, Rita Hayworth, Ginger Rogers, Gary Cooper, Dennis Hopper, Lolo Brigida, John Travolta, Peter Henry, Jane Fonda. La manie du cinéma, Cinémania, la manie du cinéma, Cinémania. Anna Chigula, Anna Karina, Isabelle Huppert, Jodie Foster, Claudia Cardinale, Sergio Leone, Jerry Lewis, Tony Curtis, Fernand Doré, Simone Signoret, Alain René, Maurice René, Judy Garland, Cary Grant, James Stewart, Humphrey Bogart. La manie du cinéma, Cinémania, la manie du cinéma, Cinémania. Isabelle Adjani, Anna Magnani, Roman Polanski, Klaus Kinski, Alain Delon, Michel Simon, Jack Lemmon, Jack Nicholson, Julie Christie, Jacques Tati, Warren Beatty, Visconti, Jean-Luc Godard, Jean Renoir, Stéphane Audran, Trintignant, Alfred Hitchcock.
Toujours en direct de la convention cinéphile au cinéma Arvor organisée par 97mm. Et là, je suis avec Louis Denis, qui est l'auteur du Giallo et Rosso, qui est donc ce livre qui était déjà présent lors de la précédente convention cinéphile. Donc, c'est vraiment sur le rock progressif italien. Et là, tu viens de sortir un Gobelin Diabolus in Musica, donc qui va vraiment être une sorte d'analyse transversale, j'imagine, de la musique des Gobelins, donc les fameux compositeurs pour Dario Argento, entre autres. Et toi, tu as décidé de nous parler de l'éditeur Frenesi.
Bah oui. Pardon. Oui, je vais vous parler de Frenesi parce que si je suis là, c'est un petit peu grâce à eux. Puisque, en fait, le début de l'histoire, notamment du livre Giallo et Rosso, c'est qu'il y a 4 ans, ces braves gens me contactent pour faire le bonus d'un DVD qu'ils allaient restaurer et rééditer, qui était La Victime Désignée, La Vittima Designata. Voilà. Et donc, comme la musique avait été faite par Louis Bacalov et puis jouée par un groupe italien qui s'appelle les New Trolls, eh bien, il m'avait contacté en me disant « Bah voilà, Louis, est-ce que tu peux venir et on va faire un bonus et tu vas nous expliquer le contexte, qui s'est passé, la musique, etc. » Donc, eh bien, le DVD Blu-ray est là. La Victime Désignée, qui est un film génial, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais les 10 dernières minutes, c'est un bonheur, avec la musique justement de Bacalov et des New Trolls. Et donc, moi, après ça, j'ai fait ce livre, Giallo et Rosso, mais je l'ai fait finalement par répercussion du bonus. Voilà. Il se trouve que l'année dernière, et merci de t'en rappeler, j'étais là, ils étaient là, et cette année, on est à nouveau là. Il y a plein de monde, je trouve ça génial. Vous organisez ça, c'est superbe. Voilà, c'est un bel endroit. Voilà. Et donc, moi, je suis content d'être là. Je vois du monde, plein de gens sympas. Un autre milieu que celui que je connais, qui est le milieu plus du rock, et qui est un milieu du cinéma avec des gens passionnés. Donc voilà, et donc le fait d'être avec les amis de Frenesi, je trouve que c'est une belle chose à chaque fois. Voilà ce que je voulais te dire.
Merci Louis, c'est un plaisir de t'avoir.
Qu'est-ce que c'est qu'un cinéphile ?
Un cinéphile, c'est quelqu'un qui cherche dans le cinéma l'expression d'un art actuel et une expression humaine aussi dans cet art.
Disons quelqu'un qui soit... Je dis pas dingue parce que ça fait c'est un côté péjoratif, mais quelqu'un qui soit assez fanatique pour y aller un certain nombre de fois par semaine.
Combien de fois allez-vous au cinéma dans une semaine ?
Environ 8 fois.
En général, une dizaine de fois en moyenne.
Actuellement, une quinzaine de fois à peu près, ou 12 fois. Autrefois, il m'est arrivé d'y aller même beaucoup plus que ça.
Ah, pour moi, ça rejoint un peu ça. C'est un cinéphile, c'est un drogué qui a besoin d'avoir sa dose, qui va la chercher n'importe où, dans n'importe quelle salle. Il faut absolument sa ration de films pendant la semaine.
Et vous, monsieur ?
Je suis un peu d'accord. Enfin, le cinéphile aussi, c'est à partir de certains films, d'un nombre extrêmement étendu de films, de se faire une espèce de, si on veut, de vie intérieure.
Grâce au cinéma.
Grâce au cinéma.
Et quel métier faites-vous ?
Je suis clerc de notaire.
Est-ce que le cinéma peut avoir une influence sur votre vie ?
Bien sûr, oui.
Oui, quelle sorte d'influence ?
Pour moi, le cinéma a une très grande importance. On peut dire qu'il m'aide à vivre, que pour moi, c'est une manière de vivre, de voir le monde. C'est une façon tout à fait nouvelle de voir le monde, d'appréhender les gens.
Le cinéma, qu'est-ce que c'est pour vous ?
Tout.
Enfin, c'est quelque chose, c'est une, presque une raison de vivre.
Pour moi, c'est la vie, dans le sens complet du mot, quoi. Pas un mirage de la vie, ni un reflet, ni une retranscription. C'est la vie elle-même, c'est-à-dire l'amour, l'amitié, la révolte, tous ces sentiments qui font l'homme.
Alors que la littérature, la peinture, la musique semblent réservées à certaines classes, le cinéma, grâce à son mode d'expression original et à sa plus grande facilité de compréhension, est devenu l'art de tous les jeunes, sans distinction de milieu. Et si une faible partie de la jeunesse le considère encore comme une distraction de hasard, il n'en demeure pas moins l'un des phénomènes sociaux les plus représentatifs de notre époque.
Nous sommes toujours à la convention cinéphile organisée par l'association 97 mm à l'Arvor et je suis maintenant avec Antonin Moreau du cinéma et pas bien
décédé
du cinéma et décédé qui a donc choisi de parler de Matewan de John Sayles qui vient de ressortir. C'est bien ça ?
Ouais, c'est exactement ça. Je sais qu'on en a déjà beaucoup parlé dans cette excellente émission du cinéma. Je ne sais pas si tu connais, c'est très
parler.
Très bien. Et mais vu que bon là, je suis sur les radios concurrentes, je vais remettre une couche sur Matewan que vient de sortir l'éditeur Intersection, qui nous promet d'ailleurs aussi, c'était une petite exclusivité de cette convention cinéphile, de continuer de travailler sur John Sayles. Et là, c'est vraiment une nouvelle qui me ravit au plus haut point. Matewan, c'est un film absolument extraordinaire de John Sayles. Qui est un cinéaste que moi j'avais découvert via son film probablement le plus connu en France, même si c'est assez méconnu, c'est Lone Star, qui était sorti en 96. Et Matewan, il s'agit de son quatrième ou cinquième film, me semble-t-il, qui est un film que j'avais vu en m'intéressant à tiens, comment le cinéma américain s'est intéressé aux luttes syndicales et aux luttes d'extrême gauche. Et bon, quand on fait des recherches un petit peu là-dessus, il n'y a pas grand-chose. Chose, hein. Dans les mêmes années, il y avait Norma Rae, je crois, de Martin Ritt. Effectivement, il y avait
Traître sur commande.
Traître sur commande de Martin Ritt également. Il y a eu le Daniel de Sidney Lumet qui, un peu par la bande, on va dire, s'intéressait un petit peu aux époux Rosenberg, c'est-à-dire à ces communistes du coup qui s'étaient fait assassiner par le gouvernement américain pour suspicion de sédition communiste. Et donc Matewan, lui, va s'intéresser aux luttes, à une guerre en fait entre des mineurs en Virginie qui tentent de s'organiser en syndicat. Évidemment, les patrons ne voyaient pas ça d'un bon œil. Bon, moi voilà, moi c'est vraiment un truc qui m'a bouleversé ces derniers mois, c'est de la découverte de tous les films de John Sayles. C'est-à-dire, c'est toujours le mystère de savoir comment ça se fait que ce type n'est pas plus connu en France, en sachant que on le sait, les Français sont très friands de cinéma américain et surtout les Français, surtout la critique française, voit des cinéastes américains de gauche partout. Ils sont même capables de dire que Clint Eastwood est de gauche ou que John Carpenter est de gauche. Et quand on a affaire à un cinéaste qui est vraiment de gauche, tendance marxiste, comme John Sayles, c'est-à-dire quelqu'un qui considère, qui filme la société, mais sous un angle de lutte des classes, c'est-à-dire qui pense contrairement à tout le principe même fondateur du cinéma américain que l'individu ne prime pas mais que c'est des conditions sociales qui priment sur l'individu, la critique française et la cinéphilie française est passée complètement à côté de cet auteur-là qui est à la tête d'une œuvre absolument merveilleuse. Évidemment, Matewan, c'est ça synthétise un peu ce truc-là, parce que ça t'intéresse de front à une lutte sociale. Mais tous ces films, finalement, vont travailler ces luttes, ces tensions qui vont exister entre différentes classes et pris le pouvoir économique dominant. Matewan, c'est un film merveilleux qui date des années 80, mais qui ressemble purement à un film des années 70, ne serait-ce que par sa photo qui est signée à Scale Wexler. Et là, dans cette édition géniale que font Intersection, et là, je renvoie à ce que disait Simon lors d'une précédente intervention, on a l'impression qu'avec un intersections, on touche des éditions qui pourraient ressembler un petit peu à celle de Criterion, cette légendaire éditeur new-yorkais qui offre au film des écrins absolument merveilleux. Là, le bonus, l'interview de John Sayles qui fait 1h30, elle est géniale. L'interview de sa compagne et productrice Maggie Renzi, c'est formidable. Et tout l'accompagnement critique en termes de livret ou de la critique de cinéma Muriel Jouldet, c'est absolument passionnant et c'est une super porte d'entrée sur le cinéma de John Sayles. Donc alors là, je recommande très chaudement de claquer vos 25 balles pour acheter le Blu-ray de Matthew Vaughn.
Merci Antonin, et juste pour préciser, puisqu'on parlait justement de lutte syndicale, et j'imagine que vous en avez pas parlé dans votre émission parce que vous y connaissez rien en critique sociale.
On est de droite.
Donc voilà, un excellent livre de Louis Adamique qui s'appelle Dynamite, un siècle de lutte de classe en Amérique 1830-1930, écrit à chaud puisque Louis Adamique est mort en 1931 et qui revient justement sur toutes les luttes syndicales américaines et notamment donc les grèves des mineurs, et qui est un ouvrage absolument passionnant et qui a été traduit en français il y a une petite dizaine d'années. Que je vous remercie Antonin de ta participation à cette émission.
Il n'y a pas de quoi mon Thomas.
Dégoûtant. Tout simplement dégoûtant.
Je n'y comprends rien. C'est un film génial. Sais-tu ce qu'un grand critique a écrit sur ce film ? Qu'il réinvente le cinéma en introduisant une esthétique picturale révolutionnaire. À l'aide de longs plans séquences d'une beauté primitive, qui force le spectateur à se resituer dans un univers régénéré et libérateur, où la cérébralité avilissante de l'esprit humain est enfin superbement bannie.
Bon, eh ben moi je suis pas critique, mais j'appelle ça un film cochon.
Ben, tu n'y comprends rien ? Regarde sur l'écran, la voilà la nouvelle culture.
Ben moi j'ai du travail et j'ai pas besoin de venir au cinéma pour me défouler, voilà.
Ben t'as tort. À force de regarder faire les autres, tu finiras peut-être par passer aux actes.
J'ai 200 à recevoir de personne. Oh, voilà.
Fasciste.
Pas con ça. Respectez les heures à regarder des cochonneries comme ça.
À vous, les PD.
Vous êtes des déjeuners cérébraux. Voilà ce que vous êtes. Moi je travaille. Ou alors on fait du sport. Allez jouer au golf. Vous montez à cheval.
Pauvre Charles.
Nous sommes toujours à la convention cinéphile à l'Arvor organisée par l'association 87mm et nous avons le plaisir, la joie, l'honneur d'être avec Julien Dupuis de Capture Mag. Voilà, nous avons eu l'audace et le courage de demander au grand Julien Dupuis de bien vouloir nous accorder quelques minutes de son précieux temps, car il y avait quand même une queue gigantesque pour la séance de dédicace de Capture Mag et où Julien...
Deux heures qu'on l'attend.
Où Julien a accaparé toute la populace pendant que ses pauvres camarades étaient rachetés.
Cameron, ils se sont pupissés.
Exactement. Oh là là là. Voilà. Alors nous, faute d'avoir James Cameron, nous sommes avec Julien Dupuis.
L'homme camelot.
C'est ça. On est quand même à une poignée de main de James Cameron, hein. C'est pas
Est-ce
mal.
Que
hein.
Tu veux savoir comment il est dans la vie, c'est ça.
C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il mange à midi? Donc.
Alors, des cacahuètes. Ça, je peux te dire. De l'houmous, beaucoup de l'houmous. C'est vrai en plus. Hein. Mais il mange un petit peu. Sûr, il mange un petit peu, mais tout le temps.
Ah, il grignote. Et
voilà, il grignote.
Mais c'est très mauvais pour la ligne, ça.
Bah, il a un petit côté rongeur. Bah, par contre, t'as vu la ligne. Ouais. Alors en fait, il se lève très tôt, vers 5h du matin. Il commence avec une session de gym, mais plutôt douce. Ensuite, il prend son petit déjeuner, répond à ses mails. Ensuite, il fait son entraînement de kickboxing.
Après, il va tirer dans son jardin.
Et après, non, alors bon, ça, c'est les beaux, c'est les beaux jours, quoi. Et après, il va bosser.
Très bien.
Non, mais il est parti.
Donc, Julien. Julien, tu voulais nous parler du livre de Melvin Z, Mad Max, Ultra-violence dans le cinéma, Part 1, édité il y a 2 ans chez les éditions Rififi, livre, évidemment, formidable, hein, dont on a déjà parlé plein de fois. Et. Nous ne disons pas ça parce que Melvin est une personne que nous connaissons vaguement.
Ah, c'est les circuits courts déjà. Donc si tu veux, c'est favoriser les circuits courts. Donc c'est pas. Donc déjà il y a ça. Non, le truc avec le livre de Melvin. Alors je sais que ça a été beaucoup dit. Il a été congratulé. Il a du succès et tout. Mais le. Ah, c'est comme ça, d'accord. Donc le truc avec le livre de Melvin, il a déjà été beaucoup congratulé. C'est un livre qui fonctionne bien, hein, de ce que je sais, c'est mérité. Mais ça reste quand même un livre rare. Moi, j'en ai pas vu beaucoup en fait dans ma carrière de cinéphile, des bouquins comme ça. Melvin, c'est un obsessionnel, comme j'en ai pas vu beaucoup en fait dans ma vie de spectateur. Il y en a, hein, mais il a vraiment ce caractère-là, dans le meilleur sens du terme, et un jusqu'au boutiste. Et il faut réaliser que quand on a un livre qui nous parvient comme ça, il est comme ça. D'accord. Il faut réaliser que quand on a un livre qui nous parvient comme ça, c'est des années de travail. C'est extrêmement rare, quoi. Et alors ça, les gens n'ont peut-être pas non plus la conscience du fait que faire un livre, en général, c'est un travail à perte. C'est très peu rémunérateur. C'est très rare, en fait, que tu aies un vrai retour sur ton propre investissement. Et lui, ce que Melvin est en train de faire... c'est vraiment, il donne de lui en fait. Enfin, je veux dire, c'est un sens de l'abnégation. Il y a quelque chose de monastique, si tu veux, dans sa démarche en fait, hein, en quelque sorte, à Melvin.
Ouais, parce que c'est pas tellement un moine. Hein.
non, mais. Et le truc aussi, si tu veux, c'est que mine de rien, à ma connaissance en tout cas, mais je suis quasiment sûr et certain de ça, il n'y a pas un équivalent au monde en fait, au bouquin qu'il a livré. Et j'aimerais que dans le monde entier, régulièrement, il y a un Melvin en fait qui émerge et qui nous fasse la même chose sur le même genre de livre, quoi. Tu vois, sur
les anges gardiens de Jean-Marie Poiret.
Les anges gardiens. J'aurais pu choisir d'ailleurs l'autobiographie de Jean-Marie Poiret, tu vois, en hommage à Thomas. Mais puis aussi par goût personnel. Mais voilà, j'ai préféré m'orienter vers le livre de Melvin. Voilà. Donc je sais que c'est pas d'une originalité absolument terrassante comme choix. Mais déjà, un, vous m'avez pris à rebours, donc je fais ce que je peux, les gars. Et deux, non, mais je trouve que c'est super, en fait. J'ai jamais eu l'occasion, en fait, de chanter les louanges de l'œuvre de Melvin. Et voilà, je suis heureux de le faire. C'est de très bon cœur. Voilà.
Merci beaucoup, Julien Dupuis, donc de Capture Mag. Merci, okay. Bravo, bravo.
Bravo.
Ah, je vous préviens tout de suite, je n'accepte de tourner que les films X de série A. Je suis une intellectuelle, je tourne très peu. Les vrais créateurs sont si rares. Évidemment, il y a Robert Bresson. Mais il n'aime pas beaucoup les comédiennes professionnelles.
Oui, écoutez, je suis François Léo.
Léo ?
Oui, oui.
Ah, mais j'accepte de tourner sans attendre. Ouais, j'admire vos films. J'ai vu 6 fois La Torche Humide.
Oui, ça c'est...
J'ai même écrit une critique pour la revue Négatif à ce sujet. Attendez, je me souviens de la fin. Là où tout s'échouait en voulant plaire au public, Léo est resté distant et pervers, en refusant toute signalisation de sens qui pourrait produire à reconnaître lequel ne serait qu'une colonisation impérialiste du spectateur.
Très bien. Alors moi, je lis jamais les critiques.
Ah, mais je comprends. La peur d'être influencé. Non, mais je suis folle de joie à l'idée de tourner avec vous, vraiment.
Certainement, certainement. Mais alors, là, il faut vous dire, je réalise Les Dents de l'Amour. Hein.
Les Dents de l'Amour.
Oui, bah quoi, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, ça va pas?
Saul, action. Cut. One more. Sound. Action. One more. Roll camera. Sound. Action.
Sir, 10 minutes break.
Okay, sir.
Cut camera, sound rolling, action.